I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'épisode que vous allez entendre est rendu possible grâce à la marque de maroquinerie Le Tanneur. Je suis très heureuse de recevoir le soutien de cette maison emblématique qui célèbre ses 120 ans cette année. 120 ans de savoir-faire conçu dans ses ateliers parisiens. Pour fêter son anniversaire, la marque vous offre 15% de réduction sur toute commande passée sur le site letanneur.com. Avec le code chiffon, bien sûr. C'est l'occasion de découvrir la gamme iconique 1898, encore appelée sans couture, qui concilie élégance, histoire et modernité. Moi, j'ai choisi le sac 1898 en rouge pour pimper mon dressing en ce mois d'octobre. Place à notre invité du jour.
J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sape, chiffon, nippe, chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une quinca, trendy et accro de la mode. Pour preuve, le nom de son blog, Accro de la mode. Isabelle Auziol de Pignol a un œil qui passe tout au scanner, mais toujours avec bienveillance. Illustratrice, chroniqueuse, consultante et styliste, Isabelle a travaillé chez Balmain, Balenciaga et Burberry. Elle a lancé son blog en 2008 pour présenter une galerie de personnages méga stylés et toujours inspirants. Aujourd'hui, elle collabore auprès de groupes de presse et de maisons de prêt-à-porter. Elle est arrivée à mon rendez-vous vêtue d'une tunique noire marnie, d'un pantalon en toile Uniqlo noir et de damars de couleur marine. Bonjour Isabelle.
Bonjour Valérie.
Je suis très honorée de te voir.
Et moi très contente, très honorée également.
Alors aujourd'hui, tu te sens plus styliste, illustratrice ou blogueuse ?
Plus illustratrice. Et puis le style, c'est la base, puisque quand je dessine des personnages fictifs, je les habille, donc je fais du style. Blogueuse, je ne me suis jamais sentie vraiment blogueuse.
Quand tu as écrit « Be Hype », le livre aux éditions de La Martinière, comment as-tu fait pour trouver l'inspiration pour tous les personnages que tu as croqués? Alors ça va de mémoire du boulanger trendy au cafetier, à la quinca italienne, à la maman instagrammeuse, c'est ça, ou blogueuse?
C'est ça, oui, oui.
Comment tu fais pour être précise dans les détails? C'est ce qui m'a toujours fascinée dans ton blog, d'ailleurs.
Ah oui. Majoritairement, j'ai saisi ces personnages sur le net, puisque donc j'habite dans une ville sur la Riviera qui est célèbre pour ses maisons de retraite. Donc le hipster, non, c'était pas vraiment ce que j'avais. Si, il y en a peut-être un ou deux, mais à l'époque, ce que j'avais commencé, en fait, ce livre était un travail qui avait été commencé sur mon blog, en fait. Et donc, il n'y en avait pas au tout début de mon blog. Et donc, ces gens, oui, je les ai captés sur le net. Après, et puis, dans toutes les villes où je suis allée, quand j'allais à New York, par exemple, New York m'avait beaucoup frappée. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2010. Et vraiment, c'était le phénomène hipster était vraiment marquant là-bas. Et ça a été vraiment pour moi une claque dans la figure. Voilà, puis Londres, et puis Paris, bien sûr.
Mais t'as quand même...
Mais ce sont des heures de veille sur le net.
Hein. Oui, parce que t'as une culture mode incroyable aussi.
Oui, mais elle est venue aussi parce que c'est mon métier. Déjà, j'aimais ça au départ, et puis voilà, j'ai des années derrière moi de...
Alors justement, sur le net, tu dis que tu observes sur le net, tu vas sur des sites, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas où?
Alors, un peu de tout, en fait.
Tout inspire.
C'est souvent un lien. Ça peut être même un dossier de presse que je reçois. Je découvre qu'il y a une personnalité derrière la marque et je vais voir l'Instagram de la personne. C'est tout, mais c'est... Puis le net, mais aussi la presse papier. Et attention, il ne faut pas l'oublier parce que... Je suis une grosse consommatrice.
Tu as vraiment le souci du détail. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors, j'ai fait une petite revue de presse sur toi et j'ai relevé une phrase assez intéressante. Je dois dire qu'elle m'a fait sourire. Tu as dit, c'était dans le journal Flou, je ne sais pas si tu t'en souviens.
Oui.
Curieusement, pour quelqu'un qui s'intéresse autant à la mode, m'habiller m'intéresse moins. Est-ce vrai ?
C'est juste. C'est juste. Ce que j'aime dans la mode, c'est de l'observer sur les gens. C'est l'interaction entre la société, l'origine socio-culturelle des gens et le vêtement qu'ils portent. Ensuite, il y a aussi le vêtement qui change d'une personne à l'autre. Ce que j'aime aussi, c'est les faciès, les physionomies, les silhouettes, etc. Donc, observer ça sur ma propre personne, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ouais.
Quel est ton style ?
Oh, il a beaucoup, enfin, il varie suivant les décennies, hein, puisque je suis censée vivre avec l'air du temps. Comment je m'habille ? C'est plutôt un casual chic teinté de bourgeoisie quand même. J'aime beaucoup le style bourgeois et je compte le garder.
Qu'est-ce que t'appelles style bourgeois ?
C'est un côté quand même assez. J'aime les belles matières, j'aime bien avoir des clins d'œil de vêtements un peu surannés. J'aime beaucoup, par exemple, le sac de dame qui va à la messe, en plus.
Enfin, là, t'es arrivée avec un tote bag à PC,
oui,
quand même.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais voilà, j'aime bien le... J'ai gardé un impact très fort pour l'élégance des femmes des 20 années entre l'après-guerre et les années 70. Et voilà, j'aime ça. Quand je dis le style bourgeois, c'est ça. J'aime les gens qui portent des gants,
Les vraies élégantes.
Oui. Je ne sais pas si on peut appeler... En tout cas, les gens qui aiment les choses raffinées.
Tu as grandi à La Réunion. Est-ce que cela a eu un impact, justement, sur ton style et ta façon de t'habiller ? Tu me parlais de La Redoute aussi en préparant l'émission.
Oui, exact. Puisque quand on venait en vacances en France et que c'était l'hiver en France, on était obligé. Heureusement qu'il y avait le catalogue de La Redoute pour acheter des vêtements chauds. Et c'est un truc que depuis. J'ai toujours vu le catalogue de La Redoute à la maison parce que c'était une. Quand on habite loin comme ça, c'était important. Puis il proposait une offre qu'il n'y avait pas dans les boutiques locales. Alors l'influence, oui. Très, très sûrement, en tout cas, c'est clair qu'elle m'a apporté une soif de mode, ce que je n'avais pas sur place. Dans les pays tropicaux, surtout dans les... J'ai quitté La Réunion après mon bac au début des années 80, les styles vestimentaires sur place résumaient au style surfeur, le style Bob Marley, et puis... puis un style de la majorité silencieuse, quoi. Donc, quand je suis arrivée... Je trépignais. J'avais eu des vacances en France, donc j'avais vu Paris et je m'étais dit, c'est là où je veux vivre. Et j'avais cette soif et cette envie que je tente toujours de garder. C'est-à-dire que je fais des pauses où je ne veux plus voir la mode afin de à nouveau avoir cette envie, cette frénésie. Je veux pas être blasée.
Quand tu fais des pauses, tu te coupes des réseaux sociaux.
Voilà, ouais.
Et tu te consacres à ta maison.
Tout à fait. Et je me consacre à ma maison, à mon jardin, voilà.
Alors, j'ai lu que petite fille, tu faisais des défilés avec tes poupées Barbie.
Oui.
Tu peux nous raconter l'anecdote l'an 20 aussi.
Oui. Donc, je ne peux pas dire que j'étais l'instigatrice auprès de mon groupe de copines de faire des défilés, mais enfin bon. Donc, on attrapait la malheureuse Barbie par la taille, on la faisait marcher comme ça, en sautillant. Et puis, avec un ton docte, j'énonçais « Modèle numéro 28 de chez Lanvin ». Parce que j'avais vu des trucs à la télé, comme ça, il y avait les vieux défilés de Chanel et compagnie. Et les copines de rigoler « Mais n'importe quoi, Lanvin, c'est du chocolat ». Alors, je m'en blessais. Je dis « Mais non, je vous assure que c'est une marque de vêtements ». Et donc, j'ai demandé l'arbitrage de la maman qui était à côté. Hein, que la marque Lanvin... existe. Et puis, bah, cette maman était nulle en mode, elle ne le connaissait pas. Et voilà, donc je disais vraiment, les enfants qui ont une passion précoce dans quoi que ce soit sont des enfants solitaires. Personne ne les comprend.
Donc déjà, toute petite, tu es vraiment passionnée. Oui, et quel était ton style? Tu étais plutôt robe à smoke ou garçon manqué quand tu étais petite fille, justement?
En fait, la robe à smoke, j'en ai... C'est un peu un truc d'un pays tropical, il n'y avait pas trop ça. Déjà, j'avais un uniforme à l'école, donc, et puis le reste du temps, c'était quand même tongs et shorts et t-shirts, quoi.
Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale chez toi? Est-ce que ta maman était aussi pointue que toi et attirée par la mode?
Écoute, j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans, donc j'en sais rien. Non, puis j'ai été élevée par mes grands-mères, alors c'est peut-être ça aussi qui fait que souvent, que j'aime aussi ce côté un peu désuet, c'est peut-être ça. J'avais une grand-mère qui aimait beaucoup la mode, c'est vrai. Je me souviens qu'enfant, on était partis en vacances à Madagascar, on est arrivé dans un hôtel à Tamata, un truc vraiment... Et ma grand-mère avait un foulard où il y avait écrit Christian Dior dessus. Et la dame de l'hôtel lui dit « Ah... » Et ma grand-mère me dit après, tu vois... Comment elle m'a dit ça? C'est la France, ce qu'on appellerait le génie français, mais pas trop. Elle a employé un terme, et je me suis dit, mais je veux faire partie de cette bande. Voilà, je trouvais que c'était, voilà. C'est...
Alors justement, tu parles de bande. Ouais. Comment as-tu réussi à t'intégrer dans le milieu très fermé de la mode?
Ah oui, ça aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, donc venant de La Réunion, je ne savais même pas nouer une écharpe. Je suis arrivée, j'ai fait une prépa une école privée où les filles étaient très stylées. Objectivement, j'étais une plouque. Et il m'a fallu 2 ans. Je regardais les gens dans la rue, dans le métro. Je questionnais les filles et tout. Et puis, on attrape vite, quoi, en fait. Il suffit de s'intéresser. Et puis, je suis rentrée à Dupéré. On a fait une bande de filles aussi. Il y avait pas mal de provinciales, donc j'étais pas seule. Et puis, puis je me suis fait une bande de copains. Puis on est allé très vite dans les soirées, au palace, des choses comme ça. Sans être une... j'étais pas une fêtarde, mais en fait, ça m'aidait beaucoup à capter ce truc. Et puis après...
Et à capter les codes, en fait. Parce que c'est un milieu très codé.
Un milieu très codé, c'est une forme d'humour, une façon de s'exprimer. Puis comme on est des éponges, on...
Tu as fait une autre déclaration aussi qui m'a beaucoup plu. Mmh. Tu as dit que le choix d'un sac ou d'une paire de tennis en dit long sur la personne qui les porte.
Ah oui, c'est juste.
Alors ah. Là, je porte des tennis Adidas.
Oui, mais là, tu suis la mode. Donc.
Je suis un mouton, j'ai noté. Oui.
Non, c'est pas ça. Parce que suivre la mode, pour moi, c'est pas être un mouton, c'est être s'intéresser au monde qui nous entoure. J'ai beaucoup de respect, beaucoup pour les gens qui suivent la mode. Cette affaire de moutonner, non, pas du tout. Je ne le vois pas comme ça. Ça, je me demande si je n'ai pas dit ce truc-là il y a très longtemps, à une époque où peut-être que le net n'était pas aussi ancré dans la vie de tous les jours. C'est clair que les filles aujourd'hui, elles ont une source d'information sur la mode qui est rapide et attention, gratuite, pas oublier. Donc, les gens sont avertis et puis en fonction de leur goût. Après, alors pour la basket, non, le sac, c'est... Oui, c'est... Les gens choisissent en fonction de leur goût.
Et de ce qu'ils font aussi. Ouais. On s'adapte à la société, finalement.
On s'adapte au clan dans lequel on veut être. Exactement. On veut faire partie d'une bande.
Tu vis à Menton. Mm-hmm. Est-ce que tu trouves qu'il y a un réel écart entre Paris et la province?
Non, plus maintenant.
Donc, quand on parle du mythe de la parisienne,
non, parce ça veut rien que dire. Ça veut rien dire. Des filles stylées, il y en aura toujours. Une fois de
et
plus,
partout.
Grâce et partout. Une fois de plus, grâce aux net. Et puis attention, grâce au site où maintenant on peut commander tout. C'est-à-dire que les jeunes dans les lycées. Si vous allez aujourd'hui à une sortie d'un lycée de province, on va dire à Limoges, qui n'est pas connue pour sa Fashion Week. Donc, eh bien, vous regardez les leaders d'opinion en matière de mode, souvent dans des filières littéraires. Vous les regardez à la sortie d'un lycée, ils sont habillés comme des Parisiens. Donc, c'est fini, ça. Si on est curieux et... c'est facile de commander sur un site en ligne et d'avoir le... Parce qu'avant, ce qui faisait le décalage, c'était qu'on savait grosso modo, et puis on achetait à côté, on pensait que c'était bon, c'était une copie, c'était pas vraiment la bonne marque. Aujourd'hui, les gens sont avertis.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look ?
Je sais pas. Ça va être prétentieux de dire que je ne me souviens pas de conseils.
Peut-être une de tes grand-mères ? Ou peut-être pas ?
Peut-être
pas. Tu n'écoutais personne, en fait ? C'est peut-être ça ?
Ouais, peut-être. Puis une fois de plus, j'ai jamais pensé au look, en fait. Je fais attention à la façon dont je m'habille, surtout pour un entretien. Ou effectivement, au chaque vêtement, je vais dire, tiens, pour telle personne, je vais mettre ce sac... ou ce manteau, parce qu'en face de moi, je vais avoir une personne qui est avertie, qui va apprécier, qui va reconnaître, etc. Mais...
Est-ce que le regard des autres t'importe et te touche ?
Mon mari a tendance à me dire que oui. Alors, je crois que oui, ce serait vraiment incroyable de dire ça non. Ceci étant, est-ce que j'en souffre ? Non, par exemple.
Et si ton mari te dit « je n'aime pas la robe que tu portes
» Ça fait longtemps qu'il n'a plus son mot à dire. D'ailleurs, qu'en principe, oui, ça c'est fini. Puis c'est facile pour quelqu'un qui travaille dans la mode de dire « écoute, j'ai cette légitimité, voilà. »
Et toi, reste en costume cravate.
Voilà.
Est-ce que vieillir te fait peur ?
Absolument pas. Absolument pas, parce que, un... Bah déjà, j'ai été élevée par des personnes âgées. Elles avaient un style de vie que je trouvais très bien. Ensuite, deux, parce que d'un point de vue esthétique, je me regarde vieillir avec beaucoup d'intérêt. Les dessinateurs vont toujours préférer dessiner quelqu'un d'enrobé, quelqu'un, un visage âgé, parce que il y a des choses à raconter. Donc, je n'ai pas du tout je vois la beauté comme dans une belle porte patinée. Voilà, un visage patineux me plaît.
C'est joliment dit.
Donc, parfois, je me dis, c'est vrai, je me regarde dans un glace, j'ai une sale tronche. Évidemment, de temps en temps, je tire comme ça sur le côté, ça serait mieux comme avant. Mais comme c'est une chose inexorable, je préfère prendre le bon côté des choses et de me dire, bah tiens, autant arranger, mettre en valeur. Et donc, aujourd'hui, je vais regarder dans la rue les personnes âgées. Et Dieu sait s'il y en a sur la Côte d'Azur. Et qui ont beaucoup de style. Je vais voir beaucoup les blogs comme Advanced Style. J'ambitionne d'être une vieille dame élégante, voire excentrique.
Quel a été le cap le plus difficile à passer ? La barre des 30, des 40 ou des 50 ans ?
Alors, des 50 ans.
Pourquoi ?
Parce que là, on prend vraiment un coup de vieux. Là, on voit qu'il y a des choses qui ont changé et... Voilà, que bon, ceci étant, je ne fais ni sport, ni... Voilà, donc, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même.
Tu ne fais pas de yoga ?
Rien, non. Non, non. Je ne fais pas de yoga. Mais tous les ans, je dis, il faut que je m'inscrive. Mais là, c'est plus pour une question de confort. C'est vrai qu'on se réveille le matin, on se dit, ah tiens, j'ai mal là et tout, il faudrait quand même faire un peu de sport, faire un truc. Mais... pour en revenir, c'était quoi la question ?
Sur la barre des 30, des 40
oui,
ou des 50
oui.
ans.
Oui, oui. Alors c'est vrai que vous, on se dit souvent, bon, on était mieux avant quand on regarde sur les photos. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir une stabilité affective en étant en couple. Et j'ai le même compagnon depuis plusieurs années qui lui aussi vieillit. Donc ça aide à voir les choses quand même sous un angle différent.
As-tu des interdits vestimentaires avec l'âge ? Tu me parlais d'un,
oui.
D'un short à paillettes.
Oui, oui. Alors, il y a des choses que... Voilà. Le short à paillettes rouge. Disco, c'est fini. Ça, c'est clair. Après, je crois qu'il faut... Je crois. J'ai l'impression, pour avoir observé donc, les personnes sur la Riviera, les personnes âgées, je crois qu'il faut définitivement bannir le sexy. Voilà, tout le reste est possible.
Quelle relation entretiens-tu avec ton dressing ? Est-ce que tu es satisfaite ou alors il te manque toujours quelque chose ?
Alors, il me manque toujours quelque chose quand je vais, par exemple, à Paris, je me dis, oh là là, c'est la Fashion Week, il faut un petit peu que je fasse un effort et tout. Mais sinon, d'une façon générale, non, j'ai assez peu de choses. Et puis surtout, je les organise. Forcément, c'est mon métier, donc j'organise mes achats comme un truc de magasin. Les vêtements sont rangés par couleur, enfin tout est organisé, tout va avec.
Oh là là, il nous faudrait une photo de ton dressing.
J'achète peu de vêtements aussi, donc tout est recyclé, tout va ensemble. En fait, je le gère avec rigueur, mon dressing. Donc,
cela ne t'arrive jamais de te prendre la tête pour t'habiller ?
Quand les choses sont pas repassées, oui.
Alors justement, tu me parlais d'achat. À quelle fréquence achètes-tu des fringues ?
Alors, en général, j'achète une belle pièce une fois par an ou parfois c'est une fois tous les deux ans. Dans belle pièce, j'entends une pièce de créateur ou une belle paire de chaussures ou voilà, mais jamais les deux en fait, pour des raisons financières qui sembleraient évidentes. Et compréhensible à la plupart des auditeurs. Ensuite, je vais beaucoup dans. J'ai la chance d'avoir un dépôt vente dans ma ville qui est remarquablement bien fourni. Et donc, j'aime bien la chasse et y aller pour voir. Trouver un truc. Voilà, parce que j'aime les vêtements qui ont été bien faits. J'aime les belles idées ou une belle finition. Ça, je peux les trouver à portée de bourse chez un des dépôts ventes. Voilà.
Tu achètes plutôt en ligne ou en boutique ? Alors là, tu nous parles d'une boutique,
les deux. Mais en général, d'une façon générale, en boutique, parce que étant petite, j'attache beaucoup d'importance à la proportion. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, j'ai besoin d'essayer les vêtements.
Quel est ton dernier achat ?
Alors, ce sont les fameuses sandales à cordes de cet été. Donc, vous voyez, j'ai rien acheté depuis.
Tu es très raisonnable.
J'ai oublié la marque. Sur ces sandales tout en cordes, magnifiques, on dirait j'ai l'impression d'être soit Jésus, soit
Euclide. C'est Sophie Fontanelle qui en a porté beaucoup l'année dernière.
Oui. Je les avais vues déjà l'année d'avant et puis je les avais pas commandées sur le net parce que voilà, les chaussures, il faut les essayer. Et puis je les ai trouvées chez Merci Marius pendant le festival de hier et j'étais enchantée.
Ah oui, ça fait longtemps alors.
Oui, en avril, mais je les ai portées, elles sont impeccables et je les ai portées mais tout l'été.
Et ton prochain achat ?
Je pense peut-être une paire de baskets. De dad shoes.
Quel est le vêtement que tu ne quitteras jamais ?
Une chemise bleu marine.
As-tu trouvé le jean de ta vie ?
Oui, j'ai trouvé la marque de jean chez qui je vais régulièrement. Je peux la citer ?
Bien sûr.
C'est Comptoir des Cotonniers. Il se trouve que tous les jeans dans cette marque, qu'ils soient boyfriend, flair, me vont. C'est à croire que la patronnière... Et à ma silhouette. Voilà, donc
peut-être qu'elle te suit depuis très longtemps. Elle connaît tes exigences.
Et voilà. Mais c'est dingue, cette marque, ça fait plusieurs années maintenant. J'achète donc tous mes jeans maintenant chez eux.
Est-ce que l'accessoire est important pour toi ?
Oui, parce que comme je répète, je n'achète pas souvent de vêtements, donc j'ai tendance quand même à privilégier des basiques. L'accessoire va pimenter
La tenue.
Oui, la tenue.
Justement, tu parlais... Où est-ce que tu achètes tes fringues ? Quelles sont tes marques, tes spots ?
Alors, mes marques... j'ai une très grande... une grande estime pour Prada et Marni. Donc, vraiment, j'aime la philosophie et le style cérébral et cultivé.
Et ça ne t'empêche pas pour autant de porter un pantalon Uniqlo ?
Oui, bien sûr.
Quelle est la fringue de tes rêves ?
Ah ouais, ça fait des années, enfin ça fait plusieurs années que je voudrais m'offrir un imperméable Macintosh. Je l'ai essayé, alors pourtant c'est une marque écossaise, en général ce sont des gens d'assez grande taille, et je pensais que je disparaîtrais sous le vêtement, et un jour que j'irai au bon marché, je vois un... Alors là cette fois c'était un trench coat, kaki, dans ce coton enduit magnifique, le truc m'allait, mais c'était divinement
une
bien.
Une seconde peau.
Voilà. Et c'était pas le moment, il était un peu hors budget, et voilà, donc c'est resté, c'est dans ma liste. Un jour, je l'aurai.
Ben écoute, tu fais écouter l'épisode à ton mari.
Voilà.
Pour Noël.
Exactement.
Ou tes enfants.
Oui, tu as raison.
Alors, tout à l'heure, tu me disais que tu gérais ton dressing un peu comme une vraie...
comme une trésorière de l'armée du salut.
Exactement. Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus?
Alors... Soit ils sont vraiment abîmés, je les jette, parce que je les aime tellement que je les utilise jusqu'à la corde. Les quelques erreurs d'achat, je les revends dans mon dépôt-vente. Et ceux qui sont, moins, qui n'intéresseraient pas un dépôt-vente, je les remets à la Croix-Rouge. Ouais.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Alors, il y a deux choses. Une question de proportion. Je pense que tout est dans la proportion.
C'est-à-dire
la fonction de la taille, c'est la longueur d'une jupe, la longueur d'un pantalon, c'est infime. Hein. C'est peu de choses à quelques centimètres.
Là, sent ton œil.
Ah ouais, d'une
précis.
Épaule. Donc, c'est une affaire de proportion. Et puis. Je crois que j'ai l'impression qu'une femme est élégante le jour où, avant de sortir de chez elle, en se regardant à la glace, elle s'est sentie bien. Et ça se voit. Elle est bien dans ses vêtements. C'est ça, l'élégance. Enfin, me semble-t-il.
Alors, pour cette troisième saison de Chiffon, j'ai une nouvelle rubrique, un petit questionnaire proustien Chiffon. Si tu étais une couleur...
Ah, il y en a beaucoup. Et quand on travaille dans la mode, on les utilise toutes. Je vais dire le bleu, quand même, tous les bleus.
Tous les bleus. Si tu étais une forme de pantalon.
Un pantalon d'homme.
Si tu étais une chaussure.
Un escarpin. Allez.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de talon.
Oui.
On n'a pas parlé de talon.
Oui,
plutôt plat ou talon?
Plutôt plat, parce que je marche beaucoup, mais... j'ai le chic d'acheter des chaussures que je ne mets jamais, mais je les révère tellement, et j'ai une paire d'escarpins Céline magnifiques que je mets peu, mais c'est une chaussure incroyable. Depuis que je suis enfant, j'aime ça. Voilà. Donc je dirais l'escarpin, même si j'en mets pas forcément tous les jours.
Si tu étais une matière.
Le polyester ? Non, je rigole. une matière, le doupion de soie.
Le doupion de soie,
c'est un gros, un satin qui est utilisé en haute couture, qui est incroyable, qui a des reflets incroyables. Et dans les vieilles photos, dans les robes de Dior des années 50, ça donnait des reflets incroyables, que j'ai même retrouvé dans les tableaux de Winterhalter.
Si tu étais un bijou.
Une bague étrusque.
Si tu étais un parfum.
Ah, si j'étais un parfum. Quelque chose à base de santal, de néroli et de citron.
Toujours
et
très précise. Si tu étais un pull.
Si j'étais un pull. Un pull marin tricoté. Dans les îles de White. J'ai eu la chance de m'en procurer un, la dernière fois que je suis allée à Londres, et je le chéris. J'ai gardé l'étiquette où il y a le nom de la dame qui l'a tricoté. Alors, il gratte intensément, mais c'est une souffrance dont on se sent fort après.
Et élégante.
Il est rustique, et j'aime bien la rusticité. C'est là le... je parle du pion de soie et à côté, je parle des matières rustiques. J'aurais pu citer le tweed, par exemple. Le tweed, grand amour pour le tweed. Mon Dieu, quel tissu.
Si tu étais un sous-vêtement.
Une culotte petit bateau, n'ayons pas peur.
Si tu étais un créateur.
Ah, là, il y en a beaucoup. Bon, je vais citer Miuccia Prada. Et puis, je peux en citer...
On en sait un.
Alors, un. Bon, allez, Miuccia Prada.
Si tu étais une héroïne ou une actrice.
Diane Keaton et Tilda Swinton.
Merci infiniment, Isabelle.
Merci à toi, Valérie.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Le Tanneur, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.